You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Alors, allez, petite
de voici de retour,
toi,
ouais, oui. Après les pubs.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler
beauté.
Des sourcils, les choses à faire ou ne pas faire pour avoir de beaux sourcils.
Avoir un regard de braise.
Oui, parce que soulignons l'importance de nos sourcils.
Mais oui.
Pas de sourcils, pas d'expression.
Ah.
À tout majeur, le sourcil donne du charme et de la profondeur au regard. Bien dessiné, il complète harmonieusement le visage. Attention, si vous utilisez sur cette zone des produits de mauvaise qualité, vous pourrez soit stopper la pousse de vos sourcils ou encore pire, engendrer leur chute.
Ah bah c'est gay.
Eh oui. Pourquoi les sourcils sont importants? Ils ont deux fonctions principales. La première, protéger les yeux. En effet, ils sont là pour servir de rempart contre la pluie, la poussière ou même la transpiration qui, en tombant dans les yeux, peuvent les irriter et nous gêner. Bien sûr. Deuxièmement, ils structurent le visage.
Ça gêne quand même. Ça gêne
quand même.
Même
un peu. Hein. Et oui, visuellement, ils nous caractérisent et donnent de l'harmonie. Ils servent d'équilibre entre le haut et le bas du visage et surtout intensifient notre regard.
C'est très recherché. Hein.
Ben oui. Tout d'abord, il faut bien connaître l'implantation de nos sourcils. Ils naissent au niveau du haut du nez. C'est ce qu'on appelle la tête du sourcil. Souvent, les poils poussent ici plutôt de manière verticale et diagonale, en pointant vers le front et le milieu du sourcil. Justement, le milieu de notre sourcil s'appelle le cœur.
Ah, oh !
Eh oui. Puis, les poils continuent de façon horizontale, voire légèrement inclinée vers l'oreille, jusqu'à ce qu'on appelle la pointe du sourcil. La pointe. Ouais. Tu vois ?
Oui, oui, ah, je vois. Bon. Ouais, ouais.
Il faut savoir que nous ne sommes pas parfaitement symétriques. Il est donc fréquent que l'un de nos sourcils soit plus court que l'autre, ou bien qu'il ne pousse pas exactement de la même façon, et c'est normal.
Si c'est, même les, ouais, les poils, parfois, ils sont d'un côté et de l'autre.
Ah ouais.
Et tu, voilà. Et
alors, pour les coiffer. Qu'on fait ? On laisse ses sourcils au naturel.
Moi, je m'inquiète, là.
Ou on les épile.
Alors, tu t'es jamais occupé de tes sourcils, Pascal ?
Ça se voit pas ?
Ben non.
J'en ai pas. Non, mais c'est bleu, c'est, on va dire que c'est blond. Mm. Faut pas dire blanc.
On en voit, mais. Ouais. Moins.
Ouais. Ouais, bah, mais, on non, ça va. Non, non, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement ? On laisse les sourcils au naturel ou on les épile ?
Ben, je sais pas. Ah enfin, bah, ça oui. dépend, parce qu'il y a des fois, t'as un mono-sourcil.
Voilà, bonne question. Voilà,
parce que ça fait
selon
bizarre quand même.
Chaque femme ouais. et son implantation de base, la réponse ne sera pas la même. Sachant que s'épiler ne veut pas dire tout enlever.
Oui, d'avoir mais un petit trait comme
voilà,
certaines.
Mais simplement avoir une ligne plus nette et structurée. C'est-à-dire, pour avoir de beaux sourcils, on va juste débarrasser sa ligne naturelle des poils superflus. Le tout doit donner une beauté dégradée, avec une épaisseur de plus en plus fine en partant de la tête vers la pointe du sourcil.
Ouais, et on ne rase pas.
Oh non,
on ne rase c'est pas. Quand j'ai épilé mes sourcils, c'est ce que j'ai fait, c'est raser.
Alors, comment s'épiler les sourcils, justement ?
Ah bah alors, il paraît qu'au fil, c'est bien.
Oui.
Trace.
Tout d'abord.
La toute première fois, oui. Bah attends, ça remonte dans les années...
Il
n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps.
Alors, tout d'abord, si on n'est pas sûr de soi, il vaut mieux laisser ses sourcils entre les mains expertes d'une esthéticienne. Du moins pour la première épilation, afin qu'elle puisse dessiner parfaitement votre ligne en proportion des formes de votre visage. Rappelez-vous qu'il est préférable d'épiler au fur et à mesure. Mieux vaut moins épiler et ensuite retoucher que d'épiler trop d'un coup. Ensuite, libre à vous de continuer ensuite à la pince à épiler, à la cire traditionnelle ou orientale, ou au fil
ouais,
dont tu parlais.
Fil.
Voilà. Alors, si vous choisissez de vous épiler seulement à la pince à épiler, vous ne pourrez enlever que les poils les plus foncés et moins facilement le duvet. Mais cela donnera l'impression d'une épilation naturelle. En revanche, avec la cire, le duvet part en même temps que les poils.
Et c'est plus net.
Voilà, et vous aurez ainsi un résultat net. Bon, peut-être en rougissant un petit peu et en ayant un petit peu mal. Hein, parce
ouais,
que
oui, parce que ça peut être... voilà. Hein.
Mais on n'a rien sans rien. L'épilation au fil, quant à elle, est souvent plus douloureuse, mais promet un résultat soigné et sans rougeur. Bizarrement.
Oui, bah, les rougeurs, ça ne dure pas trop longtemps non plus.
Par contre, à éviter, il est déconseillé d'épiler le duvet et les poils qui poussent au-dessus des cils, au niveau du front. En effet, c'est le haut du sourcil qui donne l'expression du visage. Alors, on ne prend pas le risque d'avoir un air neutre permanent. De plus, lors de la repousse, c'est assez disgracieux quand ça repousse. Hein. Ensuite, on s'abstient de couper ses poils de sourcils. On laisse les ciseaux de côté, comme tu parlais tout à l'heure.
Bah, on les
coupe
pas.
C'est pas très, très...
Bah, non, mais quand ils sont longs.
Pas aux ciseaux. C'est pas beau.
Bah, on coupe comment ?
Même si certains rebelles dépassent. Tu coupes pas, on te dit. Ouais. D'accord.
Ah oui, mais quand ils sont longs, qu'ils tombent.
Mais obéis.
Mais tu peux
bah
pas.
Bah non, je peux pas.
Tu n'obéis pas. Tu ne paniques pas.
Je ne panique pas. Je vais chez l'esthéticienne.
On a une solution naturelle tout simple pour dompter ces poils indisciplinés, c'est le gel à sourcils.
Ah d'accord.
Oui, oui. C'est un mascara pour sourcils sous forme de gel incolore. La formule est souvent associée à de l'huile de ricin. Il possède donc un goupillon pour mettre en place vos sourcils et les figer dans la bonne position.
Oh, mais s'ils tombent.
Il va tomber.
Ben moi, généralement, ça tombe. Ils sont trop longs, les miens.
Ah ouais. Donc, tu coupes aux ciseaux, toi.
Ouais.
Ah. Ça se voit.
Ouais.
Tout de suite. Ouais, je sais pas dire, on invite un homme, il est désobligeant.
Mais c'est taquinerie,
pas du tout.
Je rigole. Susceptible.
Alors, voici la règle d'un beau sourcil. La bonne courbe, c'est un sourcil plus fourni au coin interne qui s'affine progressivement vers les tempes. Le bon tracé, c'est en accent circonflexe, si vous voulez égayer les traits. Légèrement cassé pour dynamiser un visage rond, remontant sur les tempes en coin externe pour rajeunir, et arrondi pour adoucir un visage carré.
C'est toute une technique, hein.
C'est dingue.
Tu m'en donneras le truc pour rajeunir.
Pour tracer une belle ligne, on prend un crayon pour faire les repères, tu sais.
Oui, du coin de l'œil.
Voilà.
Pour.
Et donc, on commence par l'aile du nez jusqu'au coin interne de l'œil. Ça mène à la tête du sourcil et vous pouvez épiler tout ce qui dépasse et se situe entre les deux sourcils. Deuxième repère, l'aile du nez jusqu'au coin externe de l'œil, la pointe du sourcil. Votre ligne doit aller jusqu'ici, mais bien souvent il est plus court, donc on va pouvoir tricher avec un crayon. Troisième repère, l'aile du nez jusqu'au milieu de l'iris, le cœur du sourcil. Votre ligne se casse en cet endroit. C'est ici où on fait la courbe, plus ou moins selon chacune, car il existe aussi des sourcils plats.
Oui.
Qui ne sont pas courbés. Le maquillage. Pour combler les trous les plus
Pascal,
visibles.
Attention, Pascal, il est attentif.
Alors, voilà. Pour masquer les trous les plus visibles, rallongez des sourcils trop épilés. Utilisez un crayon, seul ou combiné avec du fard. Coloriez les vides d'un léger coup de crayon en imitant l'aspect des poils. Donc, il faut être expert en dessin aussi un petit peu.
Ouais. Voilà. Vous ne voulez pas se rater. Hein.
Non. Vous complétez le maquillage avec une ombre à paupières en poudre. Choisissez une nuance proche de la couleur de vos cheveux ou bien sûr de vos sourcils.
Oui, parce qu'il faut avoir la même couleur de cheveux.
Bah,
que les sourcils, la même couleur que les cheveux.
Voilà, apparemment, c'est mieux.
Ah bon.
Voilà.
Bah, moi, c'est fait.
Avec un pinceau à sourcils rigides, plat et biseauté, prélevez une petite quantité de poudre et tapotez pour retirer l'excédent. Passez le pinceau sur toute la longueur du sourcil. Tracez un trait de couleur le long de l'arc pour accentuer le dessin. Et vous finissez par une couche de gel à sourcils transparent pour discipliner et les fixer.
De gel à sourcils, c'est ça?
Je dit tout à l'heure, oui.
Oui, non, oui, je sais. Oui. Petits, ouais, mais du coup, c'est plus, plutôt gratuit que de couper. Non,
tu
mais je l'enquiquine.
Couper les sourcils.
Bah voilà. Ouais.
Conseil d'entretien. L'huile végétale de ricin bio. C'est le compagnon idéal des sourcils fins et clairsemés. Si votre ligne de sourcils est naturellement peu fournie, jetez-vous sur cette merveille de la nature. En effet, il arrive d'avoir trop épilé ses sourcils étant plus jeune.
Mmh,
il ne repousse plus avec autant de rigueur et le bulbe est affaibli.
Mmh, c'est vrai.
Donc, pour avoir de beaux sourcils denses et forts, on fait une cuillère d'huile végétale de ricin.
Sur les sourcils.
Ouais. Une goutte suffit en application quotidienne sur une peau nue, le soir de préférence. Parce qu'après, ça colle un petit peu.
Ouais.
Alors, avec au doigt ou à l'aide d'un goupillon type mascara, faites-la bien pénétrer en massage circulaire. Il faut continuer pendant 2-3 mois minimum. Armez-vous de patience, ça vaut le coup.
Ah, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup,
tu
oui. Vous pouvez être patient.
Oui, des sourcils.
Gorgé de vitamine
E. L'huile de ricin.
L'huile de ricin, voilà. Elle apportera tous les nutriments nécessaires au bulbe des poils pour redonner un bon coup de fouet. Voilà. Ça vous a plu?
Bah écoute, on a appris des choses.
Vous pouvez maintenant vous occuper de vos sourcils.
Tu pourras redessiner tes sourcils, Pascal.
Oui, c'est un peu trop tard.
On va passer une petite musique, Angèle, et puis après on reviendra avec nos invités. Parler de la confiance en soi, avec des beaux sourcils, du coup.
Des beaux sourcils, voilà, tout bien dessiné.
Tout bien dessiné.
Alors cette fois, je vais vous passer Face to Face des Daft Punk, sorti en 2001.
Eh bien, on écoute.
Yeah.
Clear view. amazing what you'll find face to face.
Alors, après avoir parlé des épilations,
oui.
Je pense que là, il faut avoir confiance en son esthéticienne, hein, sinon on est mal barré. On va revenir à, donc, du coup, à la confiance en soi. Donc, on parlait de la confiance en soi, ce qu'était la confiance en soi. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel que institutionnel, on va dire. Juste comme ça. Oui. Et je vais juste dire, en fait, les origines de la non-confiance en soi ou cette carence de croyance en ses capacités.
Alors, il y a trois causes principales, mm-hmm. à mon avis, mais ce n'est que le mien. Globalement, il y a l'éducation. Mm-hmm. Donc, dans l'éducation, t'as la famille, t'as les amis, t'as les professeurs.
En fonction aussi, un peu tout le monde.
Ou quand même enfant, quand tu pratiques un sport, tu peux avoir les éducateurs qui sont mm-hmm. parfois peuvent te faire très mal.
Façon, c'est ça.
Le meilleur remède de l'homme, ce sont les mots, M-O-T-S.
Ah ouais.
Tu peux blesser quelqu'un avec les
des
mots,
M-O-T-S
également. Mmh. En deuxième lieu, je voudrais dire qu'il y a les traumatismes vécus pendant l'enfance.
Mmh.
L'abandon, les abus sexuels et la violence. Ça, c'est pour les enfants. Pour les adultes, c'est l'agression, l'harcèlement, le viol, enfin... Et puis, ce dont on a parlé tout à l'heure,
dévalorisation, survalorisation.
Oui, après, tu sais, t'as des despotting à l'intérieur de certains couples ou dans des familles, parce que, bon, voilà.
C'est sûr.
Et après, je pense, ton dialogue interne, c'est, tu sais, c'est une forme de négationnisme permanent où où on se dénigre tout le temps avec du genre je ne vois rien, je suis un imbécile, enfin bon, tu vois, la liste peut être très longue.
Ouais.
Enfin moi je le vois comme ça, on a plutôt
une grande liste de tous nos défauts que de nos qualités dans la logique.
Non, mais en même temps, c'est juste trouver l'équilibre aussi entre ça et la suffisance, tu vois, c'est pas
ouais, non, parce ouais, après, mais parce après, que les défauts, tu prends ça vraiment pour quelque chose de négatif alors qu'en fait ça peut pas toujours être négatif d'avoir des défauts. C'est une balance, c'est un peu le yin et le yang, quoi, on va dire.
Je suis d'accord avec toi, mais quand je pense surtout pendant ton enfance, ouais. Le problème, c'est que tu n'as pas cette analyse-là, je pense.
Non, tu n'as pas un recul quand tu es enfant, tu n'as pas un recul comme ça.
Ça peut te briser. Ouais. Mais...
Bah, les parents, tu les prends pour... c'est ta référence, en fait, au final, tes parents. Donc, s'ils t'ont toujours dit que tu étais nul...
Il y a tes parents, il y a ce qui est autour
de
toi,
les profs, les éducateurs, les oncles, les tantes, les enfants entre eux aussi. Donc, y a beaucoup de paramètres. Et on disait tout à l'heure...
Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure?
Les enfants, quand dans l'utérus, enfin dans le...
Oui, pendant... oui, les mémoires...
Alors là, on passe à un côté un peu plus...
c'est un peu
spirituel,
plus...
voilà, spirituel,
on va dire ça.
Mais je pense que...
c'est des mémoires.
Pour moi, intimement parlant, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose de plus spirituel, entre guillemets, que sociétal.
Ben en fait,
je veux dire, c'est pas une performance.
Non, mais pour moi, je pense que justement, le côté sociétal, c'est ce qui peut nous retirer cette confiance en soi.
Ouais.
Parce que c'est d'office. Parce que
Pascal
disait que il y avait ce dialogue intérieur qu'on pouvait avoir pour se rabaisser, etc., soi-même. Mais ça, on le fait pourquoi ? Parce qu'on l'a, entendu. Ça nous a été rabâché, donc forcément, on va y croire.
Les rabâchent
en fait.
Des choses.
Voilà, tout à fait. Et on nous rabâche des choses, et plus on va nous rabâcher les choses, au plus ça va s'ancrer en nous, et au plus on va le croire, et au forcément, on va nous-mêmes commencer à se dénigrer, se dévaloriser.
Sans qu'on s'en aperçoive.
Sans s'en apercevoir, oui.
Parce qu'on dit quand même que quelqu'un qui, qui est marginal, c'est une maladie. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ?
Non.
Il y a des psychologues qui disent que justement, lutter contre le système, vouloir être différent, ne pas intégrer un système, c'est considéré comme une maladie. C'était il y a un an, je crois, ou deux ans, où ils disaient que c'était une maladie. Donc, on est vraiment, tu vois, alors qu'en fait...
C'est aberrant.
Voilà.
C'est aberrant.
Non, mais moi j'ignorais là ce que tu dis.
Si, c'était passé. Ça n'a pas fait long feu.
Encore heureux.
Parce que beaucoup en fait ont dénigré. C'est même passé sur Facebook. Ça a même fait pas un tapin, mais presque. Ça a été survolé. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas trop insisté là-dessus. Mais oui, les gens qui n'adhèrent pas au système, en fait, pour eux, c'était considéré comme. Si tu ne veux pas adhérer à un système, si tu ne veux pas adhérer à un groupe, entre guillemets, on va dire, c'était une maladie mentale.
D'accord.
Mais ça a été mis de côté, parce que j'en entends plus parler. Mais ouais, c'était il y a deux ans, ça avait même été sur Facebook, je sais que c'était des amis qui partageaient tout ça en disant « Mais non, mais attendez, ça va pas ou quoi ?»
On a tous été un peu malades mentales, alors.
Je pense qu'on l'est tous.
Ouais, c'est pas plus mal, moi, je dis.
Être un peu fou dans cette société, voilà. Ouais, je pense.
Ouais, ça fait du bien.
Mais du coup, parce que quand on considère bien, c'est complexe, l'être humain.
Oui, ça, c'est sûr.
Parce qu'à la fois, on est seul, à la fois, on doit être avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plusieurs... Donc, il faut travailler pour soi avant d'aller vers les autres. Et en fait, on fait le cheminement inverse. On est plutôt à aller vers...
On fait les choses pour,
voilà, pour les autres.
On fait les choses pour les autres sans penser vraiment à soi.
Mais ça n'attire pas la confiance en soi.
Ben non. Et au contraire, il faut justement être bien avec soi-même pour bien pouvoir aider les autres par après ou
mais
faire des choses.
Comment est-ce qu'on travaille ça ?
Fou, alors là,
déjà, il faut s'en apercevoir.
Moi, je pense que beaucoup de gens s'en aperçoivent facilement.
Ouais, mais est-ce qu'ils veulent vraiment y croire ?
Ah, ça, c'est
une autre histoire. Oui.
Ça, c'est sûr. Mais si on veut être vraiment honnête avec soi-même, on doit le savoir.
Tu entends quand même pas mal de personnes qui disent, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours la faute des autres.
Ouais.
Faut toujours dire, c'est pas ma faute, c'est les autres. Moi, j'y peux rien.
C'est plus facile.
Tu vois ?
C'est plus facile.
Donc, ces gens-là, on peut dire déjà que ces gens-là sont. Enfin, ils comprennent pas qu'en fait, tout vient d'eux. Ils ont peut-être pas confiance en eux.
Alors après, dans les techniques... Pardon, je te
coupe. Non, vas-y.
Dans les techniques, je pense qu'il y en a
beaucoup.
Bah beaucoup, et puis aujourd'hui ça fleurit un peu de partout.
Il faut trouver celle qui va fonctionner pour nous, non?
Ouais. Bah, je pense, et puis surtout, je pense qu'il faut trouver la personne qui te convient.
Aussi, ouais, c'est très important.
En laquelle tu as complètement confiance, qui va t'inspirer, en fait, dans ce travail. Alors, tu peux faire de la sophro, tu vois, dans la sophrologie, il y a plein de choses. Tu as le contrôle de ta respiration, il y a la relaxation. Enfin, bon, moi, je parle de ce que je connais un peu avec les joueurs. Et après, il y a d'autres, sûrement d'autres méthodes, tu vois. Enfin, il y a aussi essayer de supporter le regard des autres, tu sais, tenir visuellement. Hein, c'est en fait, quand tu as un manque de confiance, on appelait ça avant peut-être la timidité, je sais pas. Mais tu les vois, ceux qui n'osent pas te regarder dans les yeux, conversation, ou à tenir. Mais je pense qu'il y a plusieurs méthodes.
Oui. Mais comme tu dis, il faut aller vraiment vers la personne
moi, je pense que c'est un peu de bon sens, mais parce que tu peux aller voir un thérapeute avec lequel ça passe pas du tout. Parfois même ceux qui suivent.
Des thérapies
avec les psys changent de psy quand ça n'avance pas.
Ouais,
ça veut dire que
il faut une confiance et il faut un feeling avec son thérapeute et surtout avec la pratique aussi qu'on choisit. Oui. Il faut que ça vibre en nous pour qu'on puisse avancer vraiment.
Mais est-ce que les thérapies ça sert à quelque chose? Est-ce qu'un thérapeute sert à quelque chose?
Voilà ta question, wow.
Bah non, mais je dis ça, c'est par expérience, moi. Mais moi, par expérience, moi, ils ne servent à rien. Mm-hmm. Parce que j'en ai vu. Je ne sais pas combien.
Mais on parle de thérapie conventionnelle, là
Oui, on parle de thérapie conventionnelle. Donc, voilà, j'étais une femme battue à un moment donné. Tu as besoin de te reconstruire. La première chose qu'on te dit, tu vas avoir un psychologue, un psychanalyste. Enfin, ouais. Mm-hmm. Donc, j'ai dû en faire. Peut-être 5, 6. Et à chaque fois, c'était, mais je sais d'où vient le problème. Mais sauf que je fais comment pour m'en sortir?
Oui, bah là, c'est que toi, c'est pas ça qui t'appelait. Enfin, c'est pas ça qui te.
Mais disons
te
que je pense que. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas parce que du coup, on sait d'où tout devient, mais on n'a pas les. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais. Et même les psychologues ne nous conseillaient pas. Bah, écoute, va voir un sophrologue, ça pourra peut-être t'aider à gérer ton stress. Ou alors la réflexologie plantaire, ce qui peut aussi t'aider. Ou le Reiki. Non, ils étaient dans leur truc. Bon, bah, si tu veux. Alors un psychanalyste ou alors ton docteur, mais tu veux des antidépresseurs. Mais non, mais moi c'est mon problème que je régler.
D'accord.
Tu vois. Enfin moi je parle pour mon expérience. Après il y a peut-être des bons psychologues, mais.
Moi je pense une chose, mais ça vaut ce que ça vaut. Je pense que les clés on les a en nous.
Ouais.
Le plus important c'est de trouver
la bonne personne qui va
te révéler en fait. Enfin je sais pas. Hein.
Oui, je suis d'accord.
Il y a plusieurs méthodes. En fait, il faut aller essayer, toquer aux portes et voir quelle méthode va nous
Alors,
convenir.
Alors, c'est sûr que les scientifiques, s'ils nous écoutent, là, il y en a qui vont gueuler. Hein,
mais... Bon, ça, c'est pas grave, hein, mais ouais.
C'est quoi ce crétin là, qui parle? Ouais.
Moi, ça va, j'ai l'habitude.
Moi, je parle par expérience. Moi, je sais que plusieurs fois, je suis arrivée, je dis oui, mais moi, le problème, je le connais. Je sais ce qui va pas. Je sais de où je viens, du pourquoi, du comment, du machin. J'ai tout analysé. Maintenant, j'aimerais passer à autre chose et guérir. Sauf que on nous apprend pas à avoir confiance en nous.
Ah non, pas du tout.
Ah bah là, je suis un peu d'accord parce que j'ai une petite note justement. Voilà.
Vas-y.
J'ai eu le temps de faire ça dans ma bagnole en arrivant. Parce que je rappelle, je suis une route secours.
Oui, il est gentiment, Pascal.
Mais moi aussi, hein.
Et en fait, c'était assez marrant. On passe 15 ans notre vie en classe. Tu vois.
Ouais, ouais.
C'est une moyenne. Et à aucun moment, on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour, et qui sont les fondements de la vie, en fait.
Tout à fait.
Même dans les religions.
Peut-être alors, plus, ou alors
que
dans
les religions,
je sais pas, mais...
tu dois quand même aimer ton prochain comme toi-même, sauf que c'est pas trop ce qu'ils transcrivent. Hein,
Ah bah...
Non.
On est dans un autre débat.
Oui. Mais en fait, on nous enseigne pas cette confiance en soi, qui devrait être enseignée déjà par les parents, déjà et puis ben, après par par le système scolaire aussi, ce qui serait pas mal.
Oui, mais il y a des gens qui réfléchissent à ça normalement.
Normalement,
c'est ceux qui savent tout là.
Oui, logiquement, qui logiquement tout, mais qui ne savent rien. entre autres. Non, ils sont plus scientifiques et terre à terre et cartésiens. Mais on parlait de quelque chose tout à l'heure aussi, c'est que donc on a dit en fait toutes les origines possibles pour expliquer cette non-confiance, pas cette carence. Mais est-ce que ça va au-delà aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure justement de cet arbre généalogique, de cet enfant qui est dans le ventre de sa mère. Donc, est-ce que la non-confiance en soi peut prendre ses origines là aussi?
Bon, c'est mon avis. Hein. C'est juste personnel. Oui, ça peut venir déjà de très très loin. Parce que on l'aura pas même travaillé peut-être dans. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est mon fonctionnement, enfin, ma façon de penser, c'est que on vit plusieurs vies et parfois on règle pas des problèmes de celle d'avant et ça revient et c'est une possibilité. Ça peut venir de beaucoup plus loin.
Donc en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel que sociétal.
Oui.
C'est pas juste aller chercher du chiffre d'affaires.
Ah bah non, pas du tout.
Ou juste être le meilleur.
De toute façon, la confiance en soi, c'est pas parce qu'on a une grande entreprise qu'on va avoir confiance. On va d'office avoir des doutes. On va d'office peut-être avoir des manques de confiance par rapport à son physique ou peu importe. C'est pas parce qu'on est riche à millions que tout va bien, qu'il n'y a pas des complexes et des choses comme ça. Donc non.
C'est pas parce qu'on est une célébrité que tout va bien aussi.
Mais parfois, même c'est le contraire. Parce que justement. Le fait d'avoir des complexes te donne une surmotivation pour essayer de te prouver à toi-même, mais aussi aux autres, que tu es capable de réussir. Et certains ont créé des empires comme ça.
Ouais.
Mais si tu grattais vraiment le personnage, il n'est pas forcément heureux. Hein.
Mm-hmm. Non. Mais du coup, en fait, c'est les gens qui réussissent le plus, entre guillemets, c'est ceux qui doutent le plus.
Je ne sais pas si ça...
Pas forcément, je ne pense pas.
Non, je pense qu'ils ne doutent pas de d'eux-mêmes dans le sens professionnel pur, parce que tu parlais de professionnel, parce que soit ils ont de réelles compétences et puis c'est bien, ils arrivent à le vendre et ça c'est parfait, mais il y a certains hommes d'affaires qui c'est une histoire d'ego aussi, et qui font ça pour être aimés, tu sais, ou pour acheter l'amour. Ça aide.
Acheter pour être aimé, oui, ça aide vachement. Non, mais il y en a qui, fonctionnent comme ça.
Non, c'est vrai. La société est faite comme ça.
Ouais.
Enfin, on va pas...
Non, bah, on va pas se le cacher.
Oui.
On doit dépenser pour exister.
Il y a ça, et puis il y en a qui trouvent plus facilement l'amour, entre guillemets.
En achetant.
En achetant ou en ayant...
C'est juste qu'ils se contentent
en étant très à l'aise aussi.
Ouais.
Ils se contentent de l'amour payé. C'est...
Ouais. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire en fait.
Je parle pas forcément de ça, mais voilà, c'est acheter l'amour de quelqu'un. Enfin, l'amour en lui-même sera jamais le vrai.
Non. Mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe,
il y a des femmes qui se trompent aussi en amour.
Dans les deux sens.
Parce qu'elles sont attirées par certaines choses, la sécurité, et voilà. Mais ça se comprend. Hein, je veux dire, c'est une société aujourd'hui qui est complexe et qui fait peur à beaucoup de personnes. Et les générations qui arrivent sont plus inquiètes que nous. On était beaucoup plus insouciants, je trouvais. Mais c'est juste le constat de ce que je vois autour de moi. Mais je trouve plus inquiet qu'à notre époque. On a vécu je parle comme un vieux con, mais non, mais on en avait un peu parlé, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est normal, la société a évolué. Alors après, avec la face pile et la face face, avec le bien et le moins bien, quoi. Et il faut essayer d'avancer avec eux. Mais moi, ce constat, je pense qu'il est évident. Hein,
On est quand même une génération. Enfin, il y a une génération quand même qui arrive qui est beaucoup plus dans l'ego que dans l'apprentissage de la vraie confiance en soi et de l'estime de soi, on va dire, à l'heure actuelle.
Ah oui, mais c'est l'évolution de cette société où aujourd'hui, pour exister, il faut briller, il faut gagner
obtenir,
du pognon,
il faut avoir, il faut acheter.
C'est ça, c'est la course à l'échalote. La plus grosse baraque, la plus grosse bagnole.
Ouais.
Ça existait déjà dans les années 80-90, ça. Hein.
Oui.
Mais aujourd'hui, ça c'est...
Je pense que c'est né avec l'industrialisation, de toute façon, puisqu'il fallait Ouais, voilà, plus t'achètes, plus ça veut dire que t'es le mieux placé dans la société. Donc du coup, là, on peut pas parler de confiance en soi ni d'estime de soi.
Non.
Ah non, mais ça n'a absolument rien à voir.
Tu vois?
Si, ils s'estimaient heureux ou fiers de sa réussite.
Mais ils achètent, je dirais plutôt qu'il achète sa confiance et son estime de soi quelque part. Non,
je sais pas s'il l'achète ou il se les crée en bâtissant tout ça, tu vois. Mais bon, tu sais, c'est philosophique, hein, je veux dire.
Ouais, oui.
C'est complexe.
C'est très complexe. Bah, c'est pour ça, en fait. Au jour d'aujourd'hui, quand j'ai travaillé sur l'article, on se rend compte qu'en fait, beaucoup de personnes vont dévier sur la vraie raison de la confiance en soi et de l'estime de soi.
Oui, je pense qu'on a moins dérivé en début. Là c'est vrai qu'on parle un peu plus dans...
On parle un peu plus. Mais pour moi, c'est un fait réel. C'est que les gens ne vont pas vraiment creuser dans cette estime d'eux-mêmes et dans cette confiance en eux-mêmes et dévient justement plus dans ce truc à être le meilleur, à s'acheter une conscience peut-être. Mais
parce qu'ils pensent que c'est ça.
Mais oui, voilà. Faut.
Mais peut-être qu'avec l'âge aussi, quand on avance un peu, j'ose espérer ce qu'on appelle la sagesse, te permet aussi de voir les choses différemment.
Et j'ai l'impression que notre génération, enfin quand je parle de la génération de 1960, 70, voire 80, on est plus consciente de ces réalités des choses. Et moi, je me pose une réelle question au jour d'aujourd'hui, c'est les enfants qui arrivent maintenant, vu qu'on a été dans une génération enfant-roi.
Nous ?
Non, pas nous. Ceux qui, nos enfants,
ceux
pas
qui arrivent,
ceux qui arrivent.
Ou les petits-enfants, enfin, ouais, pour ceux qui sont.
Tu vois, du coup, on se rend compte que. Oui, on va creuser, on creuse. Mais non, c'est pour tout dire que quand j'ai travaillé sur cet article, je me rends compte que les gens n'ont plus la bonne définition de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ils vont chercher ça ailleurs. Tu vois, au lieu d'aller vraiment se dire, bon, allez, je suis qui ? Parce que finalement, quand tu fais une remise en question sur l'estime de toi-même et où est ta confiance en toi, ça se fout quand même la trouille. Parce que tu vas gratter des choses que tu n'as peut-être pas envie de savoir sur toi.
Non, mais c'est primordial de le faire pour avoir la vraie estime de soi. Il faut gratter.
Il faut se
ça peut être douloureux, mais
c'est
un travail qui doit être fait. Ouais.
Non, mais il faut se connaître. Il faut savoir où tu as envie d'aller.
Bah, faut connaître tes limites.
Il faut connaître tes limites, mais il faut aussi...
Tes défauts, tes qualités.
Mmh. Bah, c'est clair.
Les accepter, les aimer, que ce soit des défauts ou des qualités.
Puis on a le droit d'évoluer aussi, hein, dans le bon sens du terme. Mais après aussi, il faut défendre ses idées, je pense. C'est ça aussi la confiance en soi. C'est-à-dire, t'affirmer, c'est dire, voilà, moi je pense comme ça, je dis ça et je le dis. Et ne pas que le penser. Et puis, mais je pense que c'est plus facile avec l'avancement de...
Avec l'âge, oui. Bah, comme je disais sur mon petit aparté tout à l'heure. Ouais. Et donc, du coup, toi qui es maître de Reiki,
oui.
Hein, ça s'écrit avec un E, mais on dit Reiki.
C'est E-I, en fait, ouais.
Donc, voilà. Donc, du coup, tu as des gens qui viennent pour justement te voir par rapport à ça, pour justement reprendre confiance en eux.
Oui, entre autres, mais au départ, ils le cachent avec des problèmes peut-être qu'ils pensent plus
existentiels.
Profonds, en fait. Donc, mais ça revient très très vite, ça ressort très souvent et très très vite. Mm-hmm. Parce que bon, il n'y a pas que le soin en lui-même, il y a aussi beaucoup de discussions avec les personnes qui viennent me voir. Et... Il y a beaucoup de gens qui ont eu des moments très difficiles, comme Pascal disait là tout à l'heure, des mots qui ont fait qu'ils ont perdu confiance et qui les ont blessés profondément et qui ont fait que ça, la personne n'est plus du tout en confiance. Et oui, j'ai quand même pas mal de gens qui viennent pour ça. Et en général, bon, j'arrive à les aider. En tout cas, alors je vais pas avoir la prétention de dire que je les ai guéris de ça, mais ça aide beaucoup Parce que déjà, bon, dans mon travail, je sais que tu n'aimes pas ce mot de bienveillance.
Je trouve que c'est surexploité, mais dans ce cas-là, sûrement. Ouais.
Mais je dois mettre de la bienveillance, forcément. Et puis, surtout, on vient me voir, je ne dois absolument pas être dans le jugement. Et puis, ça ne m'intéresse pas d'être dans le jugement, déjà. Justement, j'ai ces phrases et ces mots, justement, d'accompagnement et de... tout simplement les valoriser. Et parfois, il y en a qui me disent, mais oh, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce qu'ils ne l'entendent pas de leur famille ou même de l'extérieur.
On est quand même dans une société qui est plus facilement à casser les gens qu'à les porter vers le haut.
Tout à fait. Et dans mon travail, moi, en tout cas, c'est quelque chose que personnellement, je fais beaucoup. J'aime beaucoup les valoriser et leur montrer quelles sont les qualités qu'ils peuvent utiliser, qu'eux-mêmes ne voient même pas, alors qu'elles sont là, qu'elles sont présentes, et qu'il faut juste les exploiter et y croire, tout simplement.
Ça fait partie des recettes, hein, tu as raison. Parce que comme il y en a plusieurs, c'est une bonne recette. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait parler, on ne nous apprend pas à aimer, en classe, l'amour et la passion. J'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire.
Ça reviendra.
Mais c'était pour rejoindre ce que tu attends.
Mais du coup, en fait, c'est pour en revenir, comme tu disais, à l'école. En fait, on n'est pas là à mettre en avant les talents.
Non, parce que une bête phrase, t'es méchant. De suite, l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis méchant. Donc je suis mauvais. Donc ça va pas.
Au lieu de dire ce que tu as fait
n'est pas bien, ou ce que tu as fait est mal. C'est la chose qu'il a faite.
En fait,
c'est
dénigrer le comportement et pas la personne, en fait.
Exactement.
En gros. Sauf qu'en fait, nous, on fait le contraire.
Exactement.
On passe son temps à dénigrer
la
personne.
Et c'est ça qui ancre des schémas dans la tête de nos enfants. En fait, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise, mais même avec les adultes.
Mais c'est juste.
Même avec les adultes.
Il faut juste trouver l'équilibre, parce que même avec les enfants, si tu leur dis trop, c'était le plus beau et nanana, et tu en fais une autre race.
Il faut à côté de ça mettre les valeurs, des valeurs indispensables de respect de l'autre et de soi-même aussi.
Oui, mais ce serait plutôt de dire pourquoi tu dois t'aimer, et pas de te dire je suis belle, je suis beau.
Exactement.
Et t'es le meilleur. Oui, mais pourquoi? Parce que du coup, nous en France, on n'est pas tous à te dire ça. Aux États-Unis, comme tu disais, ils étaient plus dans ce contexte-là. Ouais. Nous, on est plus à toujours râler, il paraît. Donc...
Mais c'est vrai que les Anglo-Saxons sont plus dans... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller jouer aux États-Unis, ce qu'on appelait la MLS, mais il y a très longtemps, c'était le début. Et déjà, même dans les méthodes d'entraînement, quand je te parlais de management, la façon dont ils nous stimulaient, mais dans le bon sens, ça n'avait rien à voir avec les méthodes ici en Europe. Et pourtant, ils avaient ce qu'ils appellent là-bas le soccer. C'était, tu vois, c'était le énième sport à l'époque chez eux. Il y avait la Formule 1, le football américain, le baseball, le basket, le hockey sur glace. Et on arrivait en 6e, 7e position en tant que sport phare. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu... c'est dans les premières places, mais à l'époque. Mais par contre, je trouvais que leur méthode d'entraînement, c'était waouh. Enfin, moi, ça me convenait parce que il n'y avait pas de place pour le doute, enfin, notamment pour le haut niveau, sans être prétentieux. Hein, mais on essaie de t'optimiser en tant qu'être humain, et ce qui te permettait de tenter tout ce que tu voulais, parce que tu n'avais pas la critique, tu n'avais pas le doute. Tout était fait pour que tu sois en confiance.
D'accord.
Je te parle de la partie psychologique, si on peut parler de psycho. Les méthodes d'entraînement n'étaient pas les mêmes, mais je te parle de ça il y a trop longtemps. Tu vois, mais, voilà.
Je ne sais pas si ça évolue en France, non?
Ça commence un peu.
Lentement.
Quand j'ai la chance d'être avec un coach ou d'avoir un club, je ne veux pas arriver comme... préparateur mental. Certains entraîneurs commencent à en parler. Je déteste ce terme parce que je préfère être le énième coach, tu vois, l'énième adjoint. Et à partir du moment où tu as la confiance de tes joueurs, là, tu mets des ateliers en place. Tu leur dis, écoutez, les gars, j'ai une corde de plus à mon arc, c'est celle-là, hormis l'aspect footballistique. Il y a ça, je mets ça en face, ça va faire servir à ça, à ça, à ça, à ça. Et en fait, ils viennent s'ils veulent. On y va doucement. Mais il y a de plus en plus de coachs, et surtout la nouvelle génération de quadras, là, avec qui j'entretiens des relations sportives, sont plus ouverts déjà. Ça commence à venir. Dans le rugby, ils sont déjà plus avancés que nous, déjà. Tu vois, il y a des sports comme ça plus ouverts. Et c'est peut-être une sorte de sémantique. Et dans le football, beaucoup de coachs ont peur. Le fait qu'on parle de psycho, mais ce terme aussi, il faudrait le bannir. ça leur fait peur. Parce qu'ils se disent, tiens, il va peut-être prendre ma place. Parce que souvent, c'est un milieu...
Ouais, très fermé.
Non, mais il y a... C'est pas le même... Comment dirais-je, on est pas... Tu me dis, hein, s'il faut que je...
Oui, vas-y, continue.
C'est pas les mêmes cursus souvent. Rugby, c'est universitaire, donc plus ouvert.
Ouais.
Le football, c'est un sport de masse.
Ouais.
Je dénigre pas. Hein. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi les entraîneurs sont plus ouverts dans certains domaines que dans d'autres. Et dans le football, ils sont tous issus du football. Donc certains ont cette ouverture, mais malheureusement, c'est pas la majorité. Voilà. Et donc ce qui nous permet, ça avance. Je pense que ça avance. Ouais.
Et de toute façon, quelqu'un qui a confiance en soi n'aurait pas peur que quelqu'un d'autre lui prenne sa place.
Mais t'as tout compris. Ouais.
Bah oui.
En fait, il faut associer les compétences. Et tout le monde avance et tout le monde évolue. Parce qu'on apprend tous les jours.
Et même si la personne prenait notre place.
Non, mais...
Ça, je veux dire, c'est la loi de la vie, on va dire, quelque part.
Oui, mais tu sais, c'est pas... Enfin bon, je sais pas, on va pas parler de
oui,
ça.
Oui, on va parler... Mais en gros... voilà, la confiance en soi, on doit être confiant en ses capacités, confiant en plein de choses aussi. Et pour l'acquérir, en fait, moi, de ce que j'ai retenu, il y a beaucoup de méthodes. Faut chercher la sienne.
Tout à fait.
Peut-être plusieurs à la fois.
Bon, pourquoi pas ?
Et la bonne personne, surtout.
La bonne personne. Et surtout, faut savoir s'aimer d'abord aussi.
Ouais.
Parce qu'on peut pas avoir l'un sans l'autre.
Ouais, du coup, ma question, c'est... est-ce que ça prend du temps ? Parce que parfois, tu as l'impression que ça va... Quand on parle de coach, tu as certains coachs qui te disent, allez, c'est comme les régimes, allez, au bout de 15 jours, allez, c'est bon. Et parfois, tu lis, quand j'ai voulu faire cette interview, j'ai lu, en 7 jours, tu as confiance en toi.
Non.
Ça prend toute une vie.
Non, ça, c'est du marketing.
C'est ça.
Oui, c'est du marketing. Ouais.
Mais de toute façon, il y a toujours des moments où il va y avoir des doutes.
Il y a des personnes qui vont croire.
Il y a des gens qui vont y croire, ça, c'est sûr.
C'est pour faire du fric. Là.
Mais de toute façon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a différents moments de confiance en soi aussi, sur différents points différents. Enfin, c'est compliqué.
C'est complexe.
C'est compliqué. Et donc, avoir entièrement confiance en soi sur tous les points, il faut toute une vie, je pense.
Et puis surtout que la vie évolue.
Non, bah, c'est pas marrant.
Si on avait confiance en nous tout de suite, je pense que du compte, on s'en marrerait un petit peu.
Non, mais ça veut dire
c'est comme si on était parfait.
Ouais, voilà.
Ça veut dire que t'es un super-héros, quoi. Enfin, ouais. Je sais pas. Si t'as pas de failles, c'est pas. Bah,
même les super-héros, ils ont des failles.
Superman, c'était les kryptonites. Hein.
Batman, c'est les chauves-souris.
Il n'y a plus de charme. Enfin, je sais pas.
Non, ouais.
C'est bien aussi d'avoir des failles.
C'est cool.
Bah oui. C'est ce qui fait avancer. Parce que si on n'avait pas de failles, on n'aurait rien à travailler. Aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, alors ?
On travaille sur soi.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des domaines qui... alors, du coup, bon, pour revenir à toi, Gaëlle, quand tu parlais des gens qui cachent, en fait, leur manque de confiance en eux pour quand ils viennent te voir, est-ce que c'est pourquoi, généralement, problème au sein du couple, au boulot, ils s'en sortent pas
Alors, ça peut venir bêtement d'une douleur au dos, par exemple.
D'accord.
D'une bête douleur, hein, et puis en parlant, et puis parce que je leur demande toujours qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi.
Oui.
Forcément. Donc ça peut partir de plein de choses différentes. Ils peuvent dire voilà, j'ai eu des abus, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et parfois, ça vient par des moyens extrêmement détournés. Mais c'est assez rapide à. Enfin, pour moi en tout cas, c'est assez rapide à déceler en fait.
En fait, le corps, de toute façon, te dit quand il y a
quelque chose. Le corps, il dit que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête, le corps, il va le montrer d'une manière ou d'une autre, hein, de toute façon.
Donc, en fait, si on est bombardé de douleurs, c'est peut-être pas parce qu'on a des problèmes de santé, c'est peut-être parce que...
C'est parce qu'on cache, on enfouit des choses émotionnellement à l'intérieur qui fait que le corps il dit ça va pas, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc, il le montre physiquement.
Ça somatise.
Tout à fait.
Mais on peut même déclencher des choses graves. Hein.
Oui, bien sûr. Oui.
Bien sûr.
Mmh. Et tout ça parce qu'on n'a pas confiance en soi.
Ou qu'on ne veut pas comprendre.
Oui.
Aussi.
On pas parce qu'on ouais. ne s'estime pas.
On n'en parle pas, on n'écoute pas son, voilà. On écoute plus son corps.
Ouais. Non. Faire confiance à ses.
Ouais. À son intuition.
À son intuition.
À ses ressentis.
Il y a des signaux. Hein. Mm. Il y a des petites lumières qui s'allument.
Ouais, il y a des petites lumières qui s'allument. Il y a Angèle qui me fait signe. Oui, je sais.
C'est fini, c'est ça.
Et dans bientôt.
Ah, dans bientôt.
Oui, dans bientôt. Je voulais faire ma petite séquence cuisine, mais je.
Oui, vas-y.
On va. Ouais. T'attends la petite séquence cuisine ?
Oui, oui.
Angèle, petite séquence cuisine. Alors, on est arrivé à la petite rubrique recette. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. La courge est un aliment de choix pour bien dormir en automne. Peu calorique, mais nourrissante, elle est source de vitamine A, de fer, de magnèse, de cuivre, de vitamine B2, de vitamine B6, B9, de vitamine C, de vitamine K, un cocktail de bonne santé à déguster avant d'aller se reposer. Est-ce que vous savez combien de variétés existent ?
Bon, il y en a beaucoup, je
ouais.
pense.
Ouais.
Exactement, idée. Je ne sais pas.
104 variétés de courges.
Mmh. Eh ben.
Ouais, je connaissais le petit marron, mais 104. Donc 104 pour préparer. Alors là, les soupes, ça peut être de la plus farineuse à la plus légère. Vous choisissez ce que vous avez envie. Donc ce légume est le produit phare de l'automne. Mmh. Les courges nous régalent de l'entrée au dessert, faut savoir. Pour les apprécier durant toute la saison froide, cuisinez-les, en vous inspirant de des recettes faciles et goûteuses. Gratin de potiron, soupe de potimarron, galette de courge, spaghetti, purée de courge butternut. La grande famille des cucurbitacées nous offre mille et une raisons de nous régaler. Au dessert, le pumpkin pie, je pense qu'on dit comme ça, tarte au potimarron, sucre indissociable de la fête de la Thanksgiving aux États-Unis. Les courges musquées se font simplement sauter à la poêle avec un petit peu d'huile et de muscade. Elles s'accompagneront volontiers de vos viandes et rôties.
Moi, j'adore.
D'accord.
104. Mmh. Alors, 104 variétés.
Oh,
vous avez le temps d'en faire pendant automne, hiver.
Hein. Varier les plaisirs.
Exactement. Donc là, c'est un petit cake. Petite recette d'un petit cake. Alors, je fais vite parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Donc, c'est 200 g de farine, 50 g de sucre fin, un sachet de levure chimique, 50 g de beurre, 200 g de chair de potimarron, 120 g de chocolat blanc, une cuillère à café de Cointreau, et pour le glaçage, 100 g de sucre glace et 3 ou 4 cuillères à café d'eau. Donc, en fait, bah, il faut mélanger tout ça parce qu'il n'y a plus beaucoup le temps. Donc, il faut mélanger tout ça. Donc, faire fondre le beurre, le laisser tiédir, râper la chair de potimarron, concasser le chocolat blanc, préchauffer le four à 180 degrés, fouetter les œufs entiers avec le sucre, ajouter le beurre, bien mélanger le tout, incorporer la farine, la levure, bien mélanger de façon à obtenir une pâte homogène, terminer en incorporant à la pâte la chair du potimarron et les éclats de chocolat, parfumer au Cointreau, et puis passer au four pendant 35 minutes, et puis après, il n'y a plus qu'à servir.
D'accord.
J'étais un peu vite, hein, mais.
Non, non, et tu fais ça quand, là ?
Ça, bah, non, bah faut demander, faudrait peut-être demander à une auditrice de venir un jour avec la recette.
Pourquoi t'es mauvaise cuisinière ?
Non, ouais. non, mais je suis pas très patiente, alors pour ça. Donc, donc là, voilà, vous avez une petite recette. Sachez que la courge, c'est l'aliment de l'automne. Donc, avec 104 variétés, vous avez du choix pour faire de la soupe, des purées, tout ce que vous voulez.
Sans donc, modération.
Exactement. Donc, on va remercier Pascal et Gaëlle d'avoir été là.
Oui, c'est un plaisir.
On a disséqué, parlé de plein de choses, mais c'était très bien. Ça ouvre à la réflexion, voilà, je dirais. Oui. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous suivre en décembre, puisqu'on vous préparera comment se faire belle, quelles idées cadeaux, quoi mettre en décoration, quels sont les plats à faire pour Noël ou le jour de l'an. Donc, ne ratez pas le mois de décembre, tous les mercredis de 13 à 15 heures. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.
À bientôt.
Bye bye. À bientôt.
Artisans, commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients